Marie-Robert, je rappelle que vous enseignez la philosophie. Quelle réflexion vous inspire notre thème du jour ?
Alors, plutôt que parler de l'égalité, en fait, je me suis posé la question d'où vient le signe égal ? Parce que ce curieux signe qu'on a tous en tête, c'est deux barres parallèles. Et saviez-vous qu'à l'époque de Pythagore, en fait, le signe égal n'existait pas du tout ? Il est difficile d'ailleurs d'imaginer que jusqu'au XVIe siècle, les équations des mathématiciens étaient toutes rédigées à force de lettres et de mots. Alors bien sûr, il y avait quelques symboles, mais en fait, tous les symboles étaient personnels. Donc chaque mathématicien avait ses propres symboles, vous imaginez le bordel. Et donc finalement, c'est en 1575 que le symbole fait son apparition. C'est le physicien gallois Robert Ricord qui, pour donner un peu d'unité à tout ça, décide de créer un symbole. Et surtout, c'est pour éviter de répéter les termes « est égal à », puisqu'il l'avait plus de 200 fois dans son texte. Donc ce qui est assez amusant, c'est de se dire que c'est à la fois par flemme, à la fois par souci d'harmonisation, que naît le signe égal. Et au fur et à mesure, évidemment, le signe s'est imposé et est devenu une évidence. Et je pense que dans une émission sur l'égalité, il serait intéressant de l'utiliser et d'en faire une bannière de ce signe égal, un drapeau, et justement peut-être le plus utilisé des émojis.
Alors Elvin, merci beaucoup Marie-Robert. Oui, allez-y Richard Wilkinson.
I wanted actually to go back to what Christina said.
Ah, je voudrais revenir sur ce que disait Christina.
That the experiments that have been done
les expériences menées dans différents contextes et qui montrent à quel point notre performance est touchée par la possibilité que l'on subjective que l'on pense à faire partie d'un groupe inférieur, eh bien, il y a des études, il y a une de la Banque mondiale qui est très intéressante, qui porte sur les castes en Inde. On leur a fait faire à des adultes et des enfants des tests, et il y a ceux qui savent à quelle caste ils appartiennent et ceux qui ne savent pas, donc une espèce de double aveugle, si vous voulez. Et quand les gens qui passent l'examen ou le test ne savent pas à quelle caste ils appartiennent, et bien leur performance est tout aussi bonne, voire meilleure. Et donc on a fait des tests pour le genre, l'ethnicité, la caste, donc. Donc si on appartient ou si on se sent appartenir à un groupe inférieur, et bien ça a une incidence négative sur votre performance. Et regardez un peu ce que l'on fait aux enfants à l'école primaire. Et comme vous l'avez dit, très justement d'ailleurs, ils vivent cette infériorité en permanence. Et en fait, l'école est perçue par les enfants, et c'est d'ailleurs objectivement le cas, c'est un système de notation et de classement social.
Exactement, très, très rapidement, mais la même étude existe avec un exercice de mathématiques où on place les filles toutes seules dans une salle pour faire des maths, ou les filles mélangées avec des garçons. Et c'est assez troublant de voir quand les filles sont dans une classe mixte, donc mélangées à des garçons, les exercices sont beaucoup moins bons, parce qu'on a masculinisé la sphère des mathématiques et qu'en fait, il y a un double rapport d'infériorité qui est un rapport d'infériorité dans le regard qu'on porte sur elle. Donc c'est assez saisissant.